Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Constance. Pas de panique, votre épisode arrive juste après cette présentation. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021, plus lumineuse que la précédente. Vous commencez à avoir l'habitude, maintenant j'aime vous partager une proposition de podcast juste avant mon épisode. Si vous êtes comme moi, tombé dans la marmite des podcasts, et que vous manquez de temps pour partir à la recherche d'épisodes inspirants dans cette vaste bibliothèque que sont les plateformes de podcast, je vous ai déniché la solution idéale. Il existe un podcast tout fraîchement créé qui a pour objectif de vous faire découvrir les épisodes inspirants, bouleversants ou même marrants, bref, marquants et à ne surtout pas rater, et ce, tout sujet confondu. Allez, trêve de suspense, je vous révèle le nom de cette pépite. Il s'agit de Génération Podcast. Chaque dimanche, Anne Fleur, officiellement boulémique de podcast, vous propose une sélection de 3 épisodes qui l'ont touchée, marquée ou émue. Et un dimanche sur deux, elle vous propose une rencontre avec un ou une hôte de podcast pour vous dévoiler les coulisses de vos podcasts favoris. Alors ce n'est pas le meilleur tips de l'année 2021 ? Vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, place à l'épisode.
Josephine, I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground.
On se retrouve aujourd'hui pour clôturer le sujet de l'allaitement induit ou de la lactation induite avec Marion de Hâte Maison sous la Lune. Marion, vous avez pu faire sa connaissance dans l'épisode 23 de la saison 1 et elle vous a décrypté l'acronyme LGBTQIA+ dans l'épisode 3 de la saison 2. Dans ce nouvel épisode avec Marion, elle nous donne des pistes et des clés pour mener notre réflexion autour de l'induction de la lactation. Elle nous partage leur vécu avec Maeva depuis l'arrivée de leur petit bout, concernant leur projet d'allaitement en duo, et finalement nous livre leur remise en question qui a conduit à l'abandon de ce projet pour mieux se concentrer sur l'allaitement strict de Marion. Le point clé à retenir de cet entretien est que le choix que vous ferez est forcément le bon, car il vous appartient, il vous ressemblera et il sera assumé. Et quand bien même vous changeriez d'avis, c'est aussi ok. Un bébé a besoin de sa maman épanouie autant que faire se peut, et non pas d'une perfect mom ou d'une wonder maman, même si en vrai, nous sommes toutes des wonder women. Je vous laisse découvrir cet épisode en compagnie de la très inspirante Marion, et vous invite à aller découvrir son compte et plus particulièrement ses ateliers unitaires autour de thèmes tous plus riches les uns que les autres. Pour aller plus loin, je vous ouvre une boîte à questions pour Marion en story afin qu'elle complète son intervention auprès de vous. Je partagerai évidemment ses réponses à vos questions et vous les laisserai en story à la une sur Instagram. PS, je vous laisse aussi prendre conscience de l'intérêt d'une doula dans la confiance que se construit la future maman et qui, à mon sens, libérerait les toutes jeunes mamans de bien des baby blues et autres dépressions du postpartum. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marion.
Bonjour.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour ce nouvel enregistrement d'un épisode spécial. Aujourd'hui, on va traiter de l'allaitement ou de la lactation induite. Les deux termes existent. Est-ce que déjà, tu peux commencer par nous rappeler qui tu es précisément et ensuite, on va passer sur la définition des termes.
Oui, alors, merci de me recevoir à nouveau. Je suis Marion, je suis doula en Ariège et je suis mariée avec Maeva et nous avons un petit bébé depuis juillet 2020. Mm-hmm. Et donc, doula, ça veut dire que j'accompagne les parents ou futurs parents du désir d'enfant jusqu'à la petite enfance. Voilà.
Donc, tu es quelqu'un qui est plutôt très bien positionné pour nous parler du thème d'aujourd'hui.
Oui. Alors, sur la lactation induite, je tiens à préciser pour commencer que nous, quand on s'y est intéressé avec Maëva, on a pris rendez-vous avec une consultante en lactation, une consultante IBCLC. Et ce sont ces personnes-là qui sont les plus à même de parler du sujet. Mais comme on s'est renseigné, ça me plaît aussi de partager ce qu'on a appris.
Et tu as bien raison, effectivement, parce que je pense quand même que ça fait partie aussi de ton accompagnement, en tout cas l'accompagnement autour de l'allaitement. Et aujourd'hui, alors déjà on va préciser, tu le préciseras dans les définitions, mais l'allaitement induit, évidemment, il ne s'adresse pas à la maman qui a porté l'enfant, mais il s'adresse à l'accompagnant, on va dire.
Oui, c'est ça. Alors la lactation induite, en fait, moi j'en ai entendu parler la première fois quand j'ai vu une émission de Frédéric Lopez qui s'appelle « Rendez-vous en terre inconnue ».
Ah, j'adore cette
émission. Oui. Et en fait, quand Frédéric Lopez est avec son invité, genre je ne sais plus du tout quel épisode c'est, mais il se trouve que la femme qui les accueille a adopté un bébé et elle l'allaite. Et donc, elle explique à Frédéric Lopez et son invité qu'elle n'a pas porté son bébé, mais qu'elle a induit sa lactation et que tout le monde peut le faire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh, mais... » J'ai envie de creuser, j'ai envie d'en savoir plus que ce qu'elle dit dans l'émission. Et donc, bah, j'ai fait quelques petites recherches, notamment sur le site de la Leche League, et j'ai vu que, en fait, il s'agit d'induire. Alors, il y a soit pour les personnes qui n'ont jamais été enceintes, soit elles ont arrêté d'allaiter pendant plus de 6 mois. Donc, il est possible de relancer une lactation.
D'accord.
Ouais. Donc, on parle de relactation s'il y a eu une pause entre la dernière tétée et 6 mois. Et au-delà de 6 mois, on parle d'une lactation induite.
D'accord.
Voilà. Et puis aussi pour les personnes qui n'ont jamais allaité du tout, qui n'ont même jamais été enceinte, jamais accouché.
On parle bien là de personnes, c'est-à-dire de tout genre.
Oui, c'est ça.
Parce qu'effectivement, j'avais entendu parler du fait que les papas aussi.
Oui, alors c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus long à mettre en place. Mais dans certaines tribus, dans des cas vraiment de survie de l'espèce, il s'est vu que si la maman décédait au moment de la naissance et que le père pouvait prendre le rôle de parent nourricier, pour son bébé, pour que son bébé puisse survivre. Et donc, il y a eu des papas allaitants. Et il y a aussi des personnes transgenres, hommes ou femmes, qui arrivent à induire leur lactation.
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette spécificité.
Ouais.
Alors du coup, comment ça fonctionne, l'allaitement induit? Comment c'est possible? Comment est-ce que ça nécessite ou pas une prise d'hormones? Est-ce que c'est très naturel?
Il existe les deux. Dans le cas des personnes transgenres, la prise d'hormones pour induire la lactation est souvent conseillée pour les hommes ou les femmes transgenres. Par contre, nous, on ne s'est pas intéressé à cette façon-là de procéder, Maëva et moi. Donc, je vais plutôt parler de la façon plus naturelle et sans hormones de synthèse. L'hormone, c'est la pilule contraceptive, en fait.
D'accord.
Qui vient apporter toutes les hormones qui vont faciliter la sécrétion de prolactine, qui est l'hormone de la lactation. Et la prolactine est sécrétée, entre autres, grâce à l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone qu'on sécrète en énorme quantité au moment de la naissance du bébé. Donc, c'est elle qui favorise la montée de lait naturel de la personne qui enfante. C'est ce qui s'est passé pour moi. Après les 3 jours, j'ai eu la montée de lait. Avant ça, il y avait le colostrum que j'avais déjà en fin de grossesse. Je commençais déjà à perdre ce liquide précieux. Bon, voilà, ça, c'était pour moi. Et puis, pour Maëva, donc, quand on a rencontré notre consultante en lactation, elle nous a expliqué que l'allaitement, il s'agit de stimuler pour produire. Et que ce soit pour moi ou pour Maëva, s'il n'y avait pas de stimulation, il n'y aurait pas de lactation. Et donc, si mon bébé arrête de téter, j'aurai de moins en moins de lait et la lactation va baisser au fur et à mesure.
D'accord.
Et donc, pour que Maëva puisse induire sa lactation, ce qui nous a été conseillé, c'était de consommer des plantes galactogènes, donc qui vont permettre à l'organisme de sécréter toutes les hormones qui favorisent la prolactine. Donc, le fenouil, fenouil grec, l'ortie aussi, le framboisier, enfin il y en a vraiment plusieurs. C'est plutôt facile à trouver, il y a même des mélanges tout faits de tisane d'allaitement. Donc ça, d'en consommer vraiment plusieurs, 3-4 tasses par jour dès la fin de grossesse. Donc il y a des personnes qui choisissent de commencer à stimuler de cette façon-là dès le début du troisième trimestre. Et puis d'autres qui préfèrent attendre. Maëva, elle a commencé à prendre les tisanes au début de mon 9e mois. Et puis ensuite, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de stimuler aussi manuellement, donc de faire des massages autour de la poitrine, autour du sein, en faisant des petits cercles sans appuyer, juste des petits massages de stimulation. Et ensuite de faire comme l'expression manuelle quand on allaite et qu'on peut avoir un engorgement, par exemple, de faire cette petite pression en appuyant sur l'aréole et sur le sein. Et ça de manière régulière aussi, et à l'approche de la naissance ou alors une fois que le bébé est né, de stimuler en utilisant un tire-lait à fréquence régulière, donc toutes les 3-4 heures, la nuit aussi.
D'accord.
Nous, à la fin de ma grossesse, quand est arrivé le moment où il aurait été bien que Maëva utilise le tire-lait, on s'est dit, en fait, on va profiter de nos nuits. Donc, elle a décidé de ne pas tirer à ce moment-là. Et puis, une fois que notre bébé est né, elle a choisi de finalement de ne pas induire la lactation. Donc, nous, on ne l'a pas fait.
D'accord.
En fait, elle a quand même donné une tétée de bienvenue à notre bébé quand elle l'a eu dans les bras dans les deuxième, troisième heures. Au début, il était vraiment que contre moi. Et moi, d'ailleurs, une fois qu'il est né, je lui ai dit « Est-ce que tu veux le prendre contre toi ?» Et elle savait tout l'échange d'hormones qui sont favorables pour que ma lactation à moi se mette en route. Donc, il a tété tout de suite et effectivement, ça s'est bien passé. Et elle, ensuite, quand elle l'a eu dans les bras, elle lui a aussi proposé le sein qu'il a pris très bien. Et ça peut aussi être une façon de stimuler, de juste stimuler avec la succion du bébé et avec le pot à pot. La difficulté, c'est que dans notre cas, comme on est deux mamans et que moi, je souhaitais l'allaiter, si Maëva lui donnait une tétée, une fois que son allaitement était induit, il aurait fallu que pendant les tétées que Maëva lui donne, moi, je tire mon lait aussi pour pas que ma propre lactation baisse.
Bah oui, c'est la difficulté.
Puisque moins il y a de, ouais, c'est ça, moins il y a de stimulation, moins il y a de lait. Donc, dans tout le chamboulement qu'a été l'arrivée de notre bébé, finalement, on a choisi de ne pas le faire parce que Maëva se sentait tombée en amour pour son enfant sans lui donner le sein. Et c'était aussi peut-être une façon à elle de se dire « Peut-être que je trouverai plus facilement ma place si je l'allaite. » Et puis, en fait, elle s'est rendue compte que non, ça n'avait pas de rapport.
Ça n'avait pas d'incidence.
Ouais. Après, il y a eu des moments où quand l'allaitement est devenu un peu plus difficile pour moi et qu'il avait des coliques, par exemple, je lui en ai voulu de ne pas avoir induit. je me suis dit, mais là, ça aurait été tellement bien que j'ai un relais. Et puis, bon, ça a duré seulement deux nuits. Et ça, maintenant, je trouve que c'est très doux, leur relation. Et en effet, il n'y a pas besoin d'allaiter pour être mère. Et que ce soit dans notre cas, dans le cas d'un couple hétérosexuel ou peu importe, il y a des familles biberonnantes et ça n'a pas de rapport en fait.
Non, c'est vrai que ça a l'air de bien se passer.
Oui, bah ouais, c'est ça. Donc en fait, les conseils, si on ne prend pas d'hormones, c'est ça, c'est de stimuler soit avec l'expression manuelle, soit avec le tire-lait, soit avec la succion du bébé, et aussi de faire du pot à pot pour favoriser la sécrétion d'ocytocine qui elle-même favorise la sécrétion de prolactine. Ça, plus les tisanes.
Et grâce à ça, il est possible de faire un allaitement strict juste sur la lactation induite?
Alors, apparemment, dans les témoignages que j'ai lus, la personne qui induit sa lactation, s'il y a une autre personne qui allaite dans le couple parental, la lactation induite ne sera jamais suffisante à l'allaitement exclusif.
D'accord. Ok. Oui.
Donc, soit, par exemple, une personne a déjà enfanté, a déjà allaité, et puis le couple choisit d'adopter un enfant. Alors, admettons que ce soit une femme cisgenre, elle va stimuler sa lactation pour allaiter son bébé adopté. Et comme elle aura déjà allaité, il paraîtrait que c'est plus facile d'induire la lactation quand il y a déjà eu un allaitement. C'est dans les témoignages. Après, c'est encore très peu... Il y a très peu de recherches, il y a très peu de sur le sujet. Donc, c'est encore à voir et selon les différents témoignages qu'on trouvera par la suite. Ces femmes-là, elles peuvent allaiter exclusivement leur bébé. Et d'autres... Même si elles ont déjà allaité avant un autre enfant, il se trouvera que le bébé aura besoin d'être complémenté. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Par contre, dans un couple où il y a deux personnes qui allaitent, une où il y a eu la montée de lait naturel puisqu'elle a enfanté, la deuxième personne qui va allaiter aura probablement besoin d'être complémentée par l'allaitement qu'on peut dire naturel.
D'accord, ok. C'est vrai que c'est toute une organisation tout de même, parce que du coup, il faut continuer et maintenir la stimulation des deux côtés. Quand tu as un double allaitement, finalement, c'est normal que tu produises moins si tu allaites moins.
C'est ça.
C'est, voilà. Oui. C'est vrai que ça doit être une super belle aventure, mais je pense que ça nécessite une vraie préparation.
Oui, en fait, ce qu'on s'est dit pour nous, Maëva a finalement fait le choix de ne pas induire sa lactation aussi parce qu'elle reprenait le travail un mois après. Et que c'est moi qui suis à la maison avec notre enfant. Donc, si mon allaitement roule, alors ça va bien. Par contre, si elle est obligée pour maintenir son allaitement de tirer au travail, alors que moi, à la maison, je peux déjà l'allaiter, ça faisait beaucoup de complications pour elle. Par contre, si on envisage avoir un deuxième enfant qu'elle, elle porte, peut-être que moi, j'induirai ma lactation et peut-être que ce sera moi à nouveau qui restera avec notre enfant et alors peut-être qu'on l'allaitera toutes les deux, je sais pas.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que alors c'est hyper intéressant ce que tu dis, excuse-moi, mais je reviens juste au début de ta phrase. Ce qui est difficile en France, c'est que le cadre légal ne nous aide pas particulièrement sur la possibilité du deuxième parent de rester plus longtemps à la maison. Voilà, c'est clair que je pense qu'il y a encore trop vague pour eux de penser allaitement induit alors qu'ils sont déjà pas forcément complètement capables de comprendre l'intérêt du deuxième parent à la maison sur l'arrivée d'un enfant.
Oui, mais...
Mais ouais. C'est un autre débat.
Oui, et puis même pour les mamans qui tirent leur lait au travail, il y a normalement des temps prévus. Mais comme Maëva n'est pour le moment pas reconnue légalement, est-ce qu'elle aurait eu le droit à ces temps-là pour tirer son lait? Je ne sais pas.
Ça dépend vraiment de l'ouverture d'esprit et du bon vouloir de l'employeur, parce qu'effectivement, non, elle n'y aurait pas eu droit. En début d'entretien, tu insistais sur le fait que vous aviez commencé et que c'était eux qui étaient d'ailleurs les plus à même de répondre à ce type de questions. Tu as insisté sur le fait qu'il fallait consulter une conseillère en lactation. Alors, je pense que déjà, tout le monde ne sait pas et ne connaît pas ce métier-là. Est-ce que tu peux m'en parler et me dire comment eux, en fait, ils te guident et t'accompagnent et s'ils sont susceptibles d'accompagner des couples, enfin, des familles queer?
Alors, les consultantes en lactation, donc, elles sont formées IBCLC. J'ai complètement oublié ce que veut dire IBCLC, mais en fait, il y a des conseillères en lactation, il y a des marraines d'allaitement. Ça, c'est plus des personnes qui sont bénévoles dans différentes associations et qui vont, par exemple, organiser des réunions de parents, de futurs parents autour de l'allaitement, et c'est des groupes de soutien, en fait. Et les consultantes en lactation, elles ont une formation qu'elles doivent renouveler tous les 10 ans et elles ont à la base une... En fait, tout le monde ne peut pas devenir consultante en lactation. Je crois que la majorité sont infirmières puéricultrices. D'accord. Mais peut-être qu'il y a d'autres corps de métier. En tout cas, c'est pas ouvert. Moi, je sais que je m'étais renseignée. C'est une formation qui dure longtemps, qui est assez coûteuse et qui est donc à renouveler, comme je disais. Mais elle est pas accessible. Moi, qui suis doula, je pourrais pas devenir consultante en lactation. Il y a vraiment un prérequis, en fait, à ce métier.
D'accord.
Et elles ont vraiment ultra formé pour soutenir. Et donc, les consultations, nous, on avait fait une consultation en visio pendant que j'étais encore enceinte. Et ensuite, elle est venue nous voir quand notre bébé avait 5 jours pour vérifier s'il n'avait pas des petits freins de restrictifs buccaux, s'il avait des petites tensions dans la mâchoire qui pouvaient l'empêcher de bien téter. Et ensuite, je suis toujours en communication avec elle si je remarque que... j'ai un sein qui me fait mal ou ce genre de choses. Puis elle va soit me proposer d'aller voir une chiro, une ostéo, selon ce qu'on détecte ensemble, soit elle va me donner des conseils de changer de position pour allaiter et tout ça. Et donc, elles sont aussi formées autour de la lactation induite. Dans la réalité, dans le concret, elles ont rarement affaire à des couples de femmes qui veulent induire leur lactation parce que c'est très peu connu, en fait.
D'accord.
Nous, c'est ça, avant de voir l'émission de Frédéric Lopez, on ne savait pas du tout que ça existait. Et puis, quand j'en parle autour de moi à des couples de deux femmes mamans, c'est pareil, elles disent « mais ah bon ?» Je pense que c'est petit à petit, peut-être aussi grâce à Internet et aux réseaux sociaux, qu'on va peut-être de plus en plus voir des bébés allaités par leurs deux parents.
Oui, effectivement. Après, c'est vrai que je pense que ça pourrait être une vraie solution. Enfin, pas une solution. Je pense que le mot est mal trouvé. Mais si tu connais pas, tu sais pas que tu peux faire. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ne désirent pas forcément porter leur enfant, mais qui aimeraient pouvoir le nourrir et qui se disent que c'est pas possible dès lors qu'elles ne portent pas.
Ouais, c'est ça. Et puis même je sais pas pour quelle raison l'allaitement peut s'arrêter. Et puis finalement, c'est très difficile pour le parent de Bah, c'est ça, que l'allaitement se soit pas bien passé ou qu'il se soit passé quelque chose qui a fait que ça s'est arrêté. Et ben, en fait, de savoir qu'on peut relancer sa lactation, c'est magnifique. Et ça vient aussi guérir des fois des allaitements ou des débuts de vie un peu traumatiques ou je sais pas ce qui peut s'être passé, ne serait-ce qu'au moment de la naissance, ou ça peut aussi jouer sur comment se met en route l'allaitement. Et donc, de savoir qu'on peut induire, peu importe quelle est notre orientation sexuelle ou identité de genre.
Oui, c'est ça. C'est vrai que tu avais insisté dessus au départ aussi. L'intérêt, c'est vraiment aussi cette relactation. On en entend tellement souvent parler des allaitements foirés, hein, soyons clairs, pour le terme, ouais. C'est complètement ça, parce que mal accompagné ou pas accompagné du tout, hélas, parce que faut pas se mentir, mais des fois, le personnel médical a pas le temps de nous accorder ce temps-là pour nourrir nos enfants. C'est une vraie possibilité de raccrocher les wagons, en fait.
Ouais, ouais, vraiment. Il y a des beaux témoignages. D'ailleurs, je crois que c'est sur le site de la Leche League aussi, de femmes qui ont induit leur lactation, qui ont mis en route une relactation, donc avant les 6 mois, comme j'expliquais. Et ça leur permet d'avoir ce lien-là nourricier qu'elles avaient imaginé ou désiré. C'est vraiment chouette de pouvoir le savoir et de faire appel à une consultante en lactation pour être soutenue et pour savoir comment s'y prendre, en fait, parce que je crois que beaucoup de consultantes en lactation sont appelées au moment d'un sevrage, par exemple, mais ça peut aussi être pour relancer l'allaitement, pas juste pour l'arrêter, donc c'est très beau.
Oui, complètement. C'est vrai que je pense que ce sont des métiers qui sont pas forcément connus, qui sont peut-être même pas forcément présentés ou proposés lors des cours de préparation à l'accouchement. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à démocratiser. Alors moi, je me positionne pas plus que ça parce que je n'ai pas souhaité allaiter mes enfants à l'époque. Je pense que je referais différemment maintenant. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est toujours une histoire de connaissance, hein, soyons clairs.
C'est clair, c'est clair.
Mais honnêtement, je n'ai pas entendu parler de ces métiers-là avant.
Ouais, je pense que si j'étais pas doula et si je travaillais pas dans le milieu de la périnatalité, je saurais pas non plus. Et même des fois, des personnes qui travaillent pourtant auprès des femmes enceintes, en maternité par exemple, moi je trouverais ça tellement merveilleux qu'il y ait des consultations avec des consultantes en lactation dans les maternités. Alors des fois, il y a des sages-femmes qui sont formées et informées et qui sont vraiment là en soutien. Mais est-ce que leur formation leur permet de proposer une relactation ou une lactation induite? Je sais pas.
Je sais pas, mais au même titre que maintenant, t'as des personnes des monitrices de portage qui sont proposées et présentées en maternité, je pense qu'il devrait y avoir aussi des conseillères en lactation.
Ah ouais, complètement.
Donc, si je résume bien ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, donc la lactation induite ou l'allaitement induit, donc concrètement, c'est sensiblement la même chose, on va dire.
Oui, c'est la même chose.
Peut être pratiquée par l'ensemble des personnes qui entourent l'enfant, qu'il soit parent ou non, d'ailleurs. C'est ouais. À préciser, parce qu'il y en a quand même de ces histoires de nourrices qui ont accompagné des bébés dont la maman était décédée à la naissance dès le 19e siècle, ou dans la littérature du 19e, on en entend parler déjà. Alors des fois, souvent c'était des nourrices qui étaient déjà mamans de leur côté et qui faisaient bénéficier du lait, mais pas que.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je m'étais renseignée là-dessus parce qu'avant, j'étais assistante maternelle. Et donc, souvent, on dit nounou. Et je disais, ben non, en fait, je ne suis pas nounou parce que la nounou, c'est la nourrice. Et moi, je ne nourris pas les enfants qui viennent chez moi.
Oui, tu ne nourris pas toi-même les enfants, ouais, de toi-même,
ouais.
Tout à fait.
Ouais.
Donc, Cet allaitement induit, il est possible dès lors qu'on se prépare bien en amont, puisque tu disais donc, dès le dernier trimestre de la grossesse, il est, enfin, soit tu prépares en naturel, soit tu le prépares grâce à la prise d'hormones, mais tu le prépares en prenant donc des tisanes de plantes ou des gélules hein, de plantes, puisque ça existe aussi en format Péros.
Oui.
Et ensuite, c'est seulement et uniquement la production d'ocytocine au moment de l'arrivée de bébé qui va faire, ou enfin de l'arrivée de bébé alors chez soi ou à la naissance on va dire, qui va te permettre de créer de la prolactine et donc d'induire la lactation.
Oui, alors c'est pas que l'ocytocine, il y a tout un cocktail d'hormones qui permettent de sécréter de la prolactine, mais s'il n'y a pas d'ocytocine, en fait des fois par exemple on peut entendre « j'étais stressée que ma montée de lait n'arrive pas » et donc elle est arrivée vraiment tard. S'il y a du stress, il y a de l'adrénaline, et l'adrénaline c'est l'hormone qui vient manger l'ocytocine, et sans ocytocine il n'y a pas de prolactine. Donc ouais. C'est une hormone je dirais principale, mais c'est pas la seule quand même.
Oui, en fait il faut pas qu'elle ait d'antagoniste. Si elle a une hormone antagoniste qui sape le travail, concrètement elle ne fonctionne pas quoi.
C'est ça.
Si j'ai bien tout compris. Oui. D'accord. Et cet allaitement donc induit, en fait tu peux le faire durer autant de temps que tu veux, puisqu'il fonctionne comme un allaitement classique une fois qu'il est mis en place.
C'est ça. Tant qu'il y a de la stimulation, il y a de la production.
D'accord. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle possibilité qui s'ouvre à nos familles aujourd'hui. Alors, je dis aujourd'hui parce qu'on en parle aujourd'hui, mais en vrai, ça s'est ouvert depuis très longtemps. C'est juste qu'on n'en parlait pas forcément.
Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve que c'est très beau et très doux de se dire... que c'est possible en fait, peu importe qu'on ait envie de le faire ou pas, juste de voir que c'est possible de porter son bébé à son sein. Ou même au début Maëva se disait je choisis de pas induire, mais je vais lui proposer quand même le sein, puisque on sait aussi que le bébé a pas forcément besoin de boire du lait quand il est au sein, et ça vient répondre à tout un tas d'autres besoins. Mais en fait, il a une force telle dans ses mâchoires et dans sa langue que ça lui fait beaucoup trop mal, puisque sa poitrine n'est pas habituée au tétée. Donc, elle a arrêté très vite de lui proposer le sein, finalement.
Oui, ce que je peux comprendre, effectivement, ouais, c'est très puissant hein, quand on n'a pas l'habitude.
Ouais, c'est assez impressionnant au début.
C'est ça, oui. Moi, j'ai jamais été retrouvée à la maternité alors que j'avais bloqué ma montée de lait avec une sage-femme qui avait décidé de quand même mettre mes triplés au sein. Bon, ouais. C'est particulier. C'était pas très logique, mais bon, bref, c'était comme ça. Ouais. Écoute, je pense qu'on a bien défriché le thème. Donc toi, tu disais qu'en tant que doula, tu peux pas être accompagnante de la lactation, enfin en tout cas pas conseillère en lactation. Par contre, tu peux accompagner les familles autour de ce projet-là.
C'est ça. Moi, je peux être là en soutien émotionnel. Quand l'allaitement est dur, quand la lactation induite, elle arrive pas aussi vite que voulu, quand y a des difficultés ou juste des besoins de partager autour de ça, l'essentiel de mon travail, surtout que maintenant je travaille essentiellement en visio, c'est de proposer un espace d'écoute et un soutien émotionnel. Donc, des fois, il peut y avoir des difficultés autour de l'allaitement. Et donc, je suis là pour soutenir les parents, que ce soit dans le cadre d'un allaitement induit ou d'un allaitement en tout court.
Oui, effectivement, c'est vrai que l'allaitement, c'est un très beau projet. On entend ton petit. L'allaitement, c'est un très beau projet. C'est un projet qui apporte énormément. Mais tout le monde le sait, c'est un projet qui est difficile dans une période qui n'est pas simple. Donc, souvent, on a besoin d'une oreille. Des fois, juste d'une oreille pour être écouté et rassuré. Et c'est là que toi, tu rentres en scène et que tu as un intérêt qui est énorme pour les parents.
C'est ça. Si je peux aider à produire de l'ocytocine, je suis là.
Marion, productrice d'ocytocine. Producteur, plutôt. Bon, ok. Bon, mais je pense qu'on a donc bien défriché tout ce thème autour de l'allaitement induit. On se retrouvera, si tu es bien d'accord, sur d'autres thèmes et d'autres sujets.
Avec grand plaisir.
Ce que je te propose, c'est que suite à la publication de cet épisode, j'ouvrirai sur le compte Instagram des Enfants Vont Bien une boîte à questions sur laquelle j'essaierai, je sais pas comment on peut faire techniquement, mais en tout cas, on essaiera d'apporter des réponses toutes les deux aux questions auxquelles on n'aurait pas répondu aujourd'hui.
Carrément, ouais, trop bonne idée.
Super, super, impeccable. Je te remercie beaucoup, Marion.
Avec plaisir, à bientôt.
À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous me suivez sur mon compte Instagram @lesenfantsvontbienpodcast, vous savez maintenant pourquoi il est important de laisser un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si ce n'est pas le cas, je vous rappelle que cela nous donne de la visibilité et que cette visibilité permet de faire découvrir le podcast à des personnes qui pourraient en avoir l'utilité ou qui pourraient le partager elles-mêmes à leur tour. Je vous laisse découvrir en note de cet épisode le compte Instagram de Marion, @maisonsouslalune, et je vous retrouve en story en fin de cet épisode afin de pouvoir continuer à poser des questions à Marion, questions dont je partagerai les réponses en story et qui resteront en story à la une sur le compte Instagram du podcast. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.